Salut les amis, ici Mehdi Lariani et bienvenue dans un nouvel épisode de L'Art de Convaincre. L'Art de Convaincre, c'est un podcast où chaque semaine, je reçois des personnes remarquables pour me parler du parcours de leur société. Ensemble, nous décortiquons les réussites, les échecs et les anecdotes afin d'en tirer le meilleur apprentissage possible pour avoir des clients heureux et créer des entreprises gagnantes. Aujourd'hui, je reçois Christa Youngen, fondatrice de Coaching Plus Academy et Success Academy. Elle est formatrice et anime des formations en communication depuis plus de 20 ans, que ce soit en individuel ou en entreprise. J'ai voulu faire cette interview avec Christa parce que je considère que pour créer des entreprises gagnantes, le rôle de la communication est primordial. Richard Branson, le créateur de Virgin, avait dit « Faut prendre soin de ses employés afin qu'ils prennent soin de vos clients ». Et je trouve que la première étape pour prendre soin de ses employés, c'est de bien les comprendre. Si l'épisode vous a plu, vous a appris des choses, vous pouvez lui envoyer un message sur son profil LinkedIn, Christa Youngen. Je vous ai mis le lien dans la description. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ma rencontre avec Christa. Salut Christa.
Bonjour Mehdi.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Donc, bienvenue pour l'Art de Convaincre, l'émission que j'ai commencé il y a pas très longtemps. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne oui. te connaissent pas?
Tout à fait. Alors déjà, merci de m'inviter à cette petite séance, je dirais.
Oui.
Voilà. Alors, qui suis-je? Mon nom est Christa Youngen. Je suis formatrice. Donc j'anime des formations en communication et en management depuis maintenant plus de 20 ans. Et j'accompagne aussi en entreprise ou en individuel, dans le cadre de séances de coaching. Je suis coach certifiée par la Fédération internationale de coaching, donc certifiée deuxième niveau PCC.
Bien. Voilà.
Alors, que puis-je dire à propos de moi? Donc, qu'est-ce qui me plaît dans ce métier? Qu'est-ce qui me passionne dans ce métier? Voilà, les relations humaines, bien entendu. Quand j'accompagne des individus en séance de coaching, voir chez eux le potentiel qu'ils ont, puisque c'est ça en fait. Hein, le processus de coaching, c'est accompagner quelqu'un pour réveiller la conscience chez cette personne et faire en sorte qu'il aille chercher les ressources qu'il ne trouve pas, qui sont bien là cependant, et le faire grandir, donc développer, se développer à la fois personnellement ou professionnellement.
D'accord.
Voilà, c'est ça qui me passionne. Et de voir les petites lumières dans les yeux des gens.
Les yeux qui pétillent, ça fait plaisir.
Voilà, les yeux qui pétillent quand ils ont compris, en fait, quand ils ont pris conscience d'un ensemble de choses et qu'ils peuvent mettre en place un ensemble d'actions.
D'accord.
Qui leur permettent de se développer et de se sentir mieux, puisque c'est aussi ça, aujourd'hui, un des buts, un des objectifs du coaching.
Oui, c'est de se sentir toujours bien à l'aise.
Voilà, tout à fait.
Et quelle est ta spécialité? Est-ce que tu as une spécialité particulière dans tout ce que tu as fait pendant quand même 20 ans? C'est quand même une expérience assez colossale.
Une spécialité, non. Alors, les formations en communication que j'anime, cela intègre tout ce qui est gestion des émotions, donc gestion du stress, tout ce qui est communication non violente, tout ce qui est communication assertive, et puis le management. Et bien sûr, dans le management, on retrouve tout cela, puisque de plus en plus, on invite les managers à développer leur intelligence émotionnelle, plutôt que leur intelligence intellectuelle, si je puis m'exprimer comme ça. Donc, je n'ai pas de spécialité, et dans le coaching, je travaille principalement, évidemment, j'aime ça, en entreprise. À côté de cela, j'ai suivi pas mal de formations en développement personnel, et notamment comme analyse transactionnelle, comme la programmation neurolinguistique, et le modèle DISC, bien entendu aussi, que j'utilise beaucoup, que ce soit dans les formations en management ou dans les formations en communication, voire même évidemment aussi dans les accompagnements de coaching.
D'accord.
Voilà.
Et c'est quoi en fait, quel est l'intérêt de former des employés à des méthodes de communication, que ce soit les méthodes DISC, les analyses transactionnelles, de la PNL, etc. À quoi ça peut servir dans une société pour des employés?
L'objectif global, c'est développer sa communication, bien entendu. Donc, se connaître soi-même, connaître l'autre et faciliter la relation entre les individus. Ça, c'est vraiment l'objectif global. Et l'analyse transactionnelle, l'analyse des transactions, donc identifier dans quelle position l'individu se trouve lorsqu'il communique avec l'autre, Peut-être connais-tu l'analyse transactionnelle?
Un tout petit peu, mais si tu peux la détailler pour ceux qui ne connaissent pas également.
Alors,
en quelques mots.
Oui, de manière très très synthétisée, oui. Vraiment. Donc, c'est un modèle qui a été initié par Eric Berne, le fondateur, le père de l'analyse transactionnelle. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que lorsque l'individu communique, il se trouve dans un état du moi. Appelé parent, adulte ou enfant. Ceci pour simplifier le vocabulaire que Eric Berne a amené. Quand tu es dans un comportement, dans une position ou dans un état du moins parent, tu peux être à la fois plus normatif ou à la fois plus nourricier. Donc tu fixes des cadres, ou tu consoles, tu réconfortes. Enfant, on trouve les enfants libres, l'enfant spontané et intuitif. Et les enfants plutôt adaptés, soumis, donc qui vont dire oui à de nombreuses consignes que le parent normatif donne, ou au contraire l'enfant adapté rebelle, qui dit non systématiquement. Les parents connaissent ça, non, ce n'est pas pour moi. Voilà, donc, et l'idéal, et aussi en coaching, l'idéal c'est de se positionner ou d'être dans un état du moins adulte lorsque nous communiquons avec l'autre. Idéalement, surtout en séance de coaching. Et inviter aussi, si l'autre se trouve dans un état du moins parent trop normatif ou trop enfant libre, l'inviter aussi à être dans une relation, dans un état du moins adulte. Quel est l'objectif? Faciliter la coopération, faciliter la recherche, voilà, de conciliation, de solution, donc une communication gagnante des deux côtés.
D'accord.
Voilà. Ça, c'est l'analyse transactionnelle. La PNL, elle est aussi associée à ce développement de la communication. Et le modèle DISC aussi. Alors, le modèle DISC est un modèle que j'aime beaucoup.
Oui, pareillement,
vraiment, mon préféré. C'est un modèle que j'aime beaucoup parce qu'il il est très, très facile à comprendre.
Est-ce qu'on peut expliquer le modèle DISC en quelques mots?
Bien sûr. Alors, le modèle DISC, donc, est un modèle qui a été initié par M. William Marston en 1890.
Ah oui.
Voilà, M. Marston a observé les comportements dans différents environnements. Et de cette observation, il en a extrait quatre comportements dits préférentiels, d'où le disque, D comme dominant, I comme influent, S comme stable et C comme conforme. Certains l'appellent aussi compétent.
D'accord.
Voilà. Ce modèle a été repris par d'autres scientifiques vers les années 1900-1920 et lui ont attribué des couleurs.
D'accord.
Donc ça, c'est un,
ça
c'est un
s'est
modèle...
développé.
Oui, tout à fait. C'est un modèle à la fois très ludique dans l'apprentissage, très facile à utiliser sur le terrain. Alors, que dit ce modèle? Donc, ce modèle s'appuie sur deux axes principaux qui sont la tâche, la relation, l'action et la non-action. Monsieur Marston appelle ça action, donc la personne qui agit et pour qui il est confortable d'agir. Et l'inverse, donc, à contrario, la personne qui est dans l'acceptation, donc qui est plutôt dans la résistance. Notamment en prise de décision. Donc il sera davantage dans l'analyse, dans la réflexion, avant d'être dans l'action.
Okay.
Voilà. Les personnes qui sont dans l'action sont des personnes qui vont se lancer dans l'action.
Ils vont réfléchir plus tard.
Ils vont réfléchir plus tard, exactement.
Je me reconnais là-dedans.
Je partage ton avis.
D'accord.
Et les autres, au contraire, vont plutôt être dans l'analyse, dans l'observation, donc être un peu plus frileux avant de se lancer dans l'action. Et un autre axe très très important, c'est l'axe de la relation, de la communication. Donc des personnes qui sont beaucoup plus introverties qu'extraverties. Et sur ce même axe de la relation, Marston y place le non-tâche. Donc des personnes qui sont beaucoup plus orientées tâche, qui mettent le focus sur le résultat, le travail, la tâche, et d'autres qui mettent le focus sur la relation.
D'accord.
Voilà, on est vraiment dans deux axes principaux, donc l'axe horizontal qui est plutôt l'axe de l'action, et l'axe vertical qui est la relation. Et quand la personne est plutôt dans un environnement hostile, Monsieur Marston dit que cette personne va davantage se concentrer sur la tâche, au contraire de quelqu'un qui se trouve dans un environnement plus sympathique pour lui, et lui va se concentrer davantage sur la relation qui va créer avec l'autre.
Okay. Ouais. Et la question, c'est est-ce que c'est mauvais d'être catégorisé bleu, jaune, rouge ou vert? Parce qu'il y a des gens qui disent non, moi je ne suis pas comme ça, je suis plutôt comme ça. Est-ce que c'est mauvais
Alors, il est vrai qu'il est important d'être prudent avec tous ces modèles de personnalité, et ils sont nombreux.
Oui.
C'est important de nuancer, vraiment. Alors, l'objectif n'est pas de catégoriser les individus et de dire tu es rouge. La personne sera bien sûr à tendance rouge, donc dominante, la personne qui va à la fois être dans l'action et à la fois être orientée tâche, travail, réussite et résultat. Et alors que la personne a ce comportement préférentiel, cette personne peut aussi avoir un comportement secondaire qui sera peut-être le profil influent, donc qui sera davantage orienté sur la relation. Donc c'est vraiment important de nuancer. Et je le répète, l'objectif n'est pas de mettre les individus dans des cases, parce que je ne serais pas du tout à l'aise avec ça. C'est vraiment important de se dire, ok, tu as ce comportement préférentiel. Monsieur Marcin dit que généralement ces comportements ils se construisent dès la plus petite enfance. Donc tu as, si tu te découvres un comportement dominant, donc rouge, tu es d'abord ce comportement dominant avec ce confort pour toi d'aller dans l'action, de réussir, d'aimer les défis, d'aimer les challenges. Et cependant, tu peux aussi, en cours de vie, parcours privé ou professionnel, te déplacer dans ce même tendance, je dirais, et avoir un comportement qui va tendre vers peut-être un comportement qui t'invitera à être beaucoup plus dans la relation.
D'accord.
Si en cours de parcours professionnel, alors que tu es justement cette personne qui décide, qui aime les défis, les challenges, et qui se rend compte, qui prend conscience qu'il est important aussi de développer la relation avec les autres, de communiquer, d'établir des relations harmonieuses avec les autres, eh bien tu vas t'intéresser à développer cette relation. Donc tu seras fondamentalement orienté comportement rouge, avec cette tendance que tu vas développer qui sera aussi dans la relation. Donc tu ne seras pas rouge-rouge.
Okay.
Tu seras rouge d'abord,
et
avec,
puis il y a les autres.
Voilà, un comportement secondaire, l'influent. Donc l'influent est l'individu qui est à la fois dans l'action et qui met le focus, davantage le focus sur la relation.
D'accord.
Souvent associé à des fonctions commerciales.
Oui, c'est vrai. Moi, je suis plutôt dans le jaune, mais tendance vers le rouge, mais un tout petit peu, pas énormément. Je suis plutôt vers les personnes dans l'influence. Quoi. C'est vraiment vers cette tendance-là. Moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ah oui, ok, c'est vraiment sympa. Ça m'a beaucoup aidé à savoir justement que l'inverse du jaune, qui est le bleu, il fallait que je prenne, ça me prend plus d'énergie à essayer de m'adapter à lui, etc. Et ça m'a beaucoup aidé avec la communication avec les gens.
Tout à fait.
Ça, c'était vraiment intéressant.
Tout à fait. C'est l'objectif aussi de s'approprier ce type de modèle, c'est de savoir comment l'autre fonctionne.
Oui.
Nous sommes tous différents.
Tout à fait.
Bien sûr, et vouloir absolument que l'autre nous ressemble, c'est évidemment pas très confortable pour que la relation puisse s'établir entre les deux personnes. Donc quand tu sais comment l'autre fonctionne, quand tu connais les motivations de l'autre personne, eh bien évidemment tu t'adaptes à cette personne. Tu t'adaptes en restant toi-même, bien entendu, et en comprenant son mode de fonctionnement et sa carte du monde, on appelle ça en PNL, programmation neurolinguistique, sa carte du monde.
D'accord.
Voilà, avec ses priorités, ses préférences, ce qui est confortable pour cette personne aussi.
D'accord.
Voilà.
Et donc, une fois qu'on sait dans quelle catégorie on se trouve, plus ou moins, on va dire, pour ne pas se catégoriser, c'est quoi la suite? Est-ce qu'il faut d'abord faire les exercices? Est-ce qu'il y a des exercices pour mieux s'adapter envers les autres? Par exemple, avec un bleu, est-ce que... il y a des clichés entre guillemets qui permettent de bien savoir est-ce que cette personne est plutôt bleue, est-ce qu'elle est plutôt rouge, vert ou un jaune. Est-ce qu'il y a cette possibilité là par exemple de détecter directement qui est et qui
quand tu connais le modèle et si tu observes un peu des individus, tu tu ne peux pas trop te tromper quand tu identifies, quand tu décodes le comportement préférentiel chez cette personne, notamment le bleu qui est le C. Donc c'est la personne qui met à la fois le focus sur la tâche et à la fois le focus sur voilà, je vais d'abord réfléchir, analyser, observer avant de me lancer dans l'action et d'expérimenter. Tu observes que ces personnes sont plutôt réservées, sont plutôt introverties. Ce ne sont pas des personnes pour qui il est très confortable d'être spontané. Ce ne sont en général pas, enfin je nuance, hein, et en général, ce ne sont pas des personnes qui sont spontanées dans la réaction, des personnes plutôt introverties. Donc ça déjà, tu peux repérer.
Okay.
Des personnes qui vont te demander beaucoup de détails.
D'accord.
Qui vont être, qui vont donner, de, vraiment, qui vont, au contraire d'un rouge qui lui va aller à l'essentiel,
ouais.
Le bleu donne beaucoup de détails et on peut le, souvent il a ce petit voix intérieur qui lui dit sois parfait et donc pour lui, eh bien, être parfait c'est donner un maximum d'infos et donner un maximum de détails. Voilà, donc il va donner un maximum de détails, il va être très structuré aussi, c'est quelqu'un qui va être très cohérent. Et quelqu'un qui va te poser beaucoup de questions pour comprendre. C'est important que ces personnes comprennent le sens de leur travail et vers ce qui est important pour eux.
D'accord.
Donc en observant le non-verbal, en entendant aussi chacun des individus, tu peux très certainement, évidemment, décoder le comportement préférentiel. D'accord. Et aussi... évidemment, ça reste une perception et que tu confirmes après avec la personne.
Ouais.
Et c'est ça aussi, c'est un échange génial parce que quand tu dis, tiens, voilà, moi j'ai la perception que effectivement je vois ça chez toi de manière très factuelle, j'entends ça chez toi.
C'est ce qui m'arrive souvent.
Voilà. C'est important que tu confirmes ma perception, mais je te vois plutôt avec ce comportement préférentiel. Voilà, qu'est-ce que tu en penses?
D'accord.
Ça crée les relations et ça permet évidemment de discuter du fonctionnement de chacun.
Okay. Donc, quel est l'intérêt pour que les employés soient formés à cette méthode DISC? Donc, on avait dit tout à l'heure pour aider à la communication. Est-ce qu'il y a d'autres avantages pour reposer ma question, c'est en quoi un employé dans une société va être avantagé à savoir dans quel cadran il se trouve, ou bien est-ce que c'est intéressant de savoir quelle est la couleur de tout le monde dans une société? Je ne sais pas si je me suis bien expliqué.
Oui, si. Dis-moi si je réponds à ta question.
D'accord.
Alors, quel est l'avantage pour un employé, je dirais employé ou toute personne qui travaille dans une entreprise, puisque là, prochainement, je vais pas ici cet après-midi en formation, et je m'adresse à des managers, et dans toutes les formations de management, j'intègre ce modèle.
D'accord.
Ce modèle DISC. Alors, en quoi est-ce important? Déjà, chaque personne se connaît davantage.
Donc,
on ne se connaît pas. Hein, on ne se connaît pas vraiment. Quand tu ne fais pas connaissance avec ce modèle, si tu n'es pas tout le temps dans ce métier de développement personnel, tu te connais très peu finalement. Donc, ça te permet de te connaître toi, de savoir quelles sont tes motivations, ce qui est confortable pour toi, ce qui te caractérise vraiment. Ça permet de connaître l'autre, bien entendu. Donc, un objectif, je répète, c'est vraiment de comprendre le fonctionnement de l'autre et donc de reconnaître les différences chez autrui. Ça, c'est fondamental. Et donc, à partir du moment où tu reconnais les différences chez autrui, tu es beaucoup plus dans cette tolérance qui est essentielle que si tu veux co-construire avec les personnes qui bossent avec toi en entreprise. Si tu veux vraiment consolider un bel esprit d'équipe, c'est vraiment essentiel que tu sois dans la compréhension du fonctionnement de chacun et dans ce qui peut parfois t'irriter toi, comprendre que okay, derrière ça, il y a aussi des qualités et que c'est important d'aller les chercher.
D'accord.
Donc, si je réponds à ta question.
Parfaitement.
Donc, c'est vraiment créer un bel esprit d'équipe. C'est faciliter la communication, c'est très riche humainement parce que quand tu connais un peu plus l'autre, bah tu as envie d'aller vers l'autre pour en savoir davantage.
Ouais.
En tout cas, en ce qui me concerne, c'est comme ça, c'est ce que j'observe aussi. Donc, on est vraiment dans une richesse de communicationnelle et humaine. Et vraiment, je veux aller vraiment beaucoup plus loin et je suis influencée par mon métier. C'est vraiment co-construire et être dans un partenariat avec l'autre.
D'accord.
Voilà. À partir du moment où tu acceptes les différences chez l'autre, non seulement toi, ça te fait du bien parce que ça t'évite souvent de t'énerver sur toi-même ou sur l'autre parce que l'autre ne te ressemble pas. Mmh. Et en plus, les relations sont hyper harmonieuses, évidemment.
D'accord.
J'ai répondu à ta question.
Parfaitement.
D'accord.
Donc, c'est la réponse parfaite que je recherchais.
Ouais.
C'est top.
Oui.
Et donc pour finir cette interview, je vais te poser trois dernières questions. C'est premièrement, quel est le livre que tu peux conseiller, que tu as en tête peut-être pour le moment?
Oui. Alors le livre que j'aime beaucoup et que j'ai envie de conseiller aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de livres que j'aime.
J'imagine.
Vraiment, en tout cas qui résonnent chez moi quand je les lis, c'est le livre sur l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman.
D'accord.
Mais comme je l'expliquais tout à l'heure, nous parlons de plus en plus d'intelligence émotionnelle. Alors, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? Ou plutôt, qu'est-ce que Daniel Goleman dit par rapport à ça? C'est qu'aujourd'hui, nous constatons que 25% des résultats chez l'individu sont liés, non pas sont principalement liés à son développement ou au quotient intellectuel. Mmh. Le reste de l'intelligence émotionnelle.
D'accord.
Donc l'intelligence émotionnelle, le contexte, le développement dans lequel, le contexte dans lequel il s'est développé. Donc seulement 25% de quotient intellectuel. Donc c'est vraiment important de développer le reste. Et qu'est-ce qu'on entend par intelligence émotionnelle? On entend compétence. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mmh. Ça veut dire que ça peut être développé. Mmh. Compétence personnelle et compétence sociale. Et Daniel Goleman parle principalement en compétence personnelle, de l'écoute de soi.
Mmh.
L'écoute de soi, l'écoute de ses émotions. Hein, et ce n'est pas très loin de tout ce que j'ai dit, notamment au modèle DISC, puisqu'on apprend aussi à se connaître.
Mmh.
L'écoute de soi, l'écoute de ses émotions, les signaux que les émotions nous envoient. Ensuite, la maîtrise de ses émotions.
Mmh.
Ça, ce sont les compétences personnelles. Et enfin, les compétences sociales. Les compétences sociales, c'est l'écoute de l'autre, par empathie, notamment. Et le modèle DISC favorise justement cette empathie et cette reconnaissance de l'état émotionnel de l'autre, de ce qui se passe chez l'autre émotionnellement pour à nouveau faciliter les communications.
Mmh.
Et la gestion des relations sociales, et notamment tout ce qui facilite le leadership, la gestion des conflits, etc. C'est un gros bouquin,
costaud.
Très gros, c'est costaud, c'est très riche.
Très intéressant.
Je dirais que ça s'adresse à toute personne, autant pour son contexte privé que pour son contexte professionnel. Mmh. Il parle notamment des relations de couple.
Mmh.
C'est vraiment intéressant. Les relations parents-enfants, c'est super intéressant. Mmh. Vraiment, donc voilà.
C'est le livre du moment.
C'est le mien, en tout
cas.
Voilà, je ne sais pas si c'est le livre du moment. Il faut s'armer parce que on est juste un peu découragé quand on voit, quand on voit la taille du bouquin. Et c'est, voilà, ça me plaît beaucoup et je l'ai conseillé à beaucoup de personnes qui l'apprécient aussi.
D'accord.
Voilà.
L'autre question, c'est quelle est la définition du mot convaincre?
Bien, ma définition.
Oui.
Déjà, convaincre. Derrière ce mot convaincre, il y a quelque chose qui peut un tout petit peu m'ennuyer, parce que le mot convaincre, derrière ce mot convaincre, il est aussi persuader.
Oui.
Alors, persuader peut me laisser entendre que la personne affirme son point de vue ou vient avec ses arguments, ses propos, sans vraiment entendre ce que l'autre lui dit. Et donc, reste figé là sur son point de vue sans vraiment être dans la conciliation et dans une recherche de conciliation avec l'autre. Donc je dirais convaincre, déjà pour moi c'est pas manipuler, ça c'est déjà quelque chose qui me semble important. Convaincre, c'est donner son point de vue, bien sûr l'affirmer aussi, et surtout entendre le point de vue de l'autre. Et qu'on soit, et pour moi, je convaincrai quelqu'un si chaque partie ressort gagnant de l'échange, donc qu'il n'y ait pas une personne qui soit plus lésée que l'autre, que ce soit vraiment dans une relation win-win. C'est ce que j'entends convaincre. Je ne serais pas à l'aise si, alors que j'ai convaincu, donc que la personne adhère à ce que j'ai dit, qu'elle se sente en position basse dans la relation.
D'accord.
C'est vraiment d'égal à égal.
D'accord.
Voilà. Okay. Aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que je pense.
Ça va, c'est une très bonne définition. Et la dernière question, c'est où on peut te trouver. Donc, s'il y a des gens qui veulent travailler avec toi dans tout ce qu'on a vu aujourd'hui dans cette interview, où ils peuvent te retrouver.
Avec plaisir. Avec plaisir. Alors, ils peuvent me trouver sur mon site Success Coaching. Donc, Success Coaching, qui est la société que j'ai créée il y a plus de 15 ans maintenant. Mm-hmm. Formation, communication et management. Success Coaching, c'est www.successcoaching.be, S-U-2-C-E-2-S, coaching, mm-hmm, en un mot. Ou alors l'académie de coaching qui propose des formations de coaching. Donc j'anime des formations de coaching, mm-hmm, je forme des coachs. Je les invite à être professionnels, mmh, vraiment dans ce métier qui est un vrai métier avec de vraies compétences. Et j'anime aussi des modules complémentaires comme le modèle DISC et la PNL, la programmation neurolinguistique par exemple aussi. Mmh. Et là, j'invite aussi les personnes à se rendre sur le site de l'académie qui est www.coaching+PLUS.academy.be. Voilà. Sinon, je pense que si vous allez sur Internet, Christa Youngen, je pense que vous trouverez mes coordonnées.
Ouais. Bah, je vais mettre de toute façon tous les liens sous la description. Voilà. De toute façon. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Christa,
merci
pour toute cette
question. Merci, c'est un plaisir.
Avec grand plaisir. Je t'en prie.
Merci beaucoup.
À la prochaine, en tout cas.
Merci. Au revoir.
Au revoir. Ciao, ciao.
C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, je vous remercie d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez envie de voir les notes de chaque épisode, vous pouvez les trouver sur mon site internet www.lartdeconvaincre.com tout attaché. Si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions ou bien pour me suggérer des invités, un livre ou même un film si vous voulez, peu importe, vous pouvez le faire soit sur LinkedIn ou bien sur Instagram sous le pseudo Mehdi Lariani, M-E-H-D-I-L-A-R-I-A-N-I. J'aime répondre au message, donc lâchez-vous. Et dernière chose, une chose qui compte énormément pour moi, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur iTunes, laisser des avis et partager ça avec vos proches. Ça aide le podcast à qu'il soit bien référencé pour que d'autres personnes puissent le découvrir. Encore une fois, merci d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous a plu. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.